Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous parlerons ce soir des conditions dans lesquelles vivent les sinistrés de Goma. Et avant cela, nous vous proposons cette rubrique décryptage sur la canne des quartiers ici en France.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Mamoudou Camara, bonjour.
Oui, bonjour.
Organisateur de la CAN du 18e arrondissement de Paris, la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN, se déroulera au Cameroun en janvier 2022. Mais ici en France, la CAN des quartiers est lancée pour le 18e arrondissement. Elle s'est ouverte ce mercredi avec l'affiche Reste du monde contre le Congo. Suivra Sénégal contre le Maroc dans le cadre de la première journée. Pourquoi avoir lancé cette compétition ?
On a lancé cette compétition avec mes amis parce que nous dans notre quartier, vraiment, on est un quartier qu'on aime vraiment le football. On aime le football, c'est incroyable. On parle de ça matin, midi, soir, on est dedans matin, midi, soir et c'est incroyable. Ça veut dire, pendant le mois du Ramadan avec mes amis, on galérait un petit peu. Puis on s'est dit, ce serait bien, on fait des matchs, mais avec une plus grosse envergure, des matchs avec son pays d'origine. Ça aurait été bien, on parlait de ça. Et quelques temps après, on a eu écho qu'il y a eu une CAN des quartiers à Évry. On a dit, ils ont eu une idée incroyable. En vrai, c'est ce qu'on parlait, on parlait de ça. Et ça veut dire, nous aussi, on a décidé de faire comme eux, on a décidé de lancer nos CAN à nous aussi.
Donc au départ, l'objectif, c'était juste d'occuper le temps.
Exactement.
Et ce 10 juin, deux matchs sont au programme pour la suite de la première journée. Il y a France-Mauritanie, suivi de Algérie-RDC. Comment se constituent les équipes ?
J'habite dans le quartier de la Goutte d'Or. Et nous, dans nos quartiers, on est vraiment beaucoup. Et on arrive à trouver de toute origine, vraiment. Pour vous dire, on a réussi à faire une compétition avec 16 équipes, d'équipes différentes. Il n'y a qu'une seule équipe. Elle a été un peu remasterisée. Mais sinon, c'est vraiment 16 équipes différentes. Et moi, j'ai créé un compte Snapchat pour essayer de faire diffuser les infos à certains joueurs que peut-être que je connais pas dans le quartier ou que dans le 18e carrément, pour essayer de faire une équipe, pour essayer de mettre en contact les joueurs. Et c'est comme ça que ça s'est fait.
Vous envisagez aussi peut-être d'aller à une CAN à 24, comme ce sera désormais le cas pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de foot ?
Oui, pourquoi pas, on va essayer. Parce que y a la première édition qu'on a fait en 2019, on a fait une CAN avec 12 équipes. Là, c'est la deuxième édition, on a 16 équipes. Mais pourquoi pas 24 la prochaine ?
Comment réussissez-vous à réunir les fonds nécessaires à l'organisation de cette compétition ?
Mais là, justement, c'est que je ne m'en rends pas toujours compte, mais c'est incroyable parce que nous, on ne demande rien à personne. Pas d'association, pas la mairie, on s'est cotisé entre nous. Par exemple, pour arriver à acheter tout le matériel dont on a besoin, j'ai demandé une cotisation de 10 euros par joueur. Sachant que dans une équipe, ils sont 9. Ça veut dire, sur les 16 équipes, j'ai réussi à récolter 1280 euros. Et avec ces 1280 euros, on a réussi à acheter pratiquement tout le matériel. Voilà.
Donc, vous n'avez pas le soutien de la mairie locale et des autorités ou des grands frères professionnels du foot ?
En fait, la première édition, on ne l'a pas forcément eue. C'est quand on était vraiment dans la compétition que là, les gens ils voulaient commencer à s'investir, alors qu'on voit de vrai, là, tout était carré. Et là, pour cette édition, j'ai eu plein de demandes, j'aurais pu avoir plein de fonds, mais moi et mon équipe, on a préféré rester comme on a fait.
C'est-à-dire organiser avec vos propres fonds ?
Oui, c'est ça. En fait, j'ai préféré. Parce que des fois, avec rien du tout, on fait quelque chose de magique. Et là, je suis en train de le prouver encore une fois. Avec rien du tout, on fait des grandes choses. C'est peut-être un défi personnel. J'ai envie de me prouver que ça, je peux le faire sans l'aide d'eux. C'est pas question de prudence. C'est vraiment, prenez-le comme un défi personnel. C'est pour faire vivre le quartier. C'est pas pour notre kiff. C'est pour notre kiff personnel. Mais on va pas se priver un an, alors qu'on peut faire ça tous les ans pour faire kiffer le quartier.
Depuis le début de ce championnat initié avec la CAN 2019 en Égypte, quel bilan ? Est-ce qu'il a permis de détecter quelques talents déjà ?
Oui, et ça, j'en ai eu des échos il n'y a pas longtemps. Il y a des recruteurs qui étaient venus à la première édition et il y a, je pense, il y a un ou, je ne dis pas n'importe quoi, un ou deux joueurs qui ont été repérés et qui ont été signés dans des clubs au Portugal.
Donc vous espérez que cette année, il y aura à nouveau des recruteurs pour donner la chance aux talents?
J'espère bien. Bah oui, parce que franchement, cette année-là, dans la CAN, un de mes objectifs, c'était de vraiment faire découvrir le talent qu'on a dans le 18e à d'autres personnes. C'est pour ça que cette année, j'ai essayé vraiment de privilégier le quartier et le 18e à faire découvrir les talents. Par exemple, mes sponsors, c'est des commerces du quartier.
La CAN des quartiers suscite de plus en plus d'adhésions. Quelles sont les perspectives? Quels sont vos projets? Est-ce que vous avez l'ambition d'aller encore plus loin?
Déjà qu'on termine cette édition, ce sera super. En fait, il y a des très bonnes amies à moi, footballeuses du quartier. Quand elles ont vu notre initiative, ça les a motivées pour faire la CAN féminine. Et j'espère, et là, je vais aller les voir pour essayer de les motiver pour encore faire la CAN féminine. Et moi, voyant tout ça, les petits du quartier, eux aussi, ils ont voulu leur CAN. Ça veut dire que j'ai organisé la CAN junior.
Donc, prochaine étape, CAN féminine et CAN des juniors.
On va essayer.
Mamoudou Camara, merci beaucoup.
Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.
Organisateur de la CAN du 18e arrondissement de Paris.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Dans votre émission ce soir, nous parlons de la République démocratique du Congo, où le Premier ministre a autorisé lundi le retour des populations déplacées de Goma après l'éruption volcanique du mont Nyiragongo. C'était le 22 mai dernier. Ce feu vert a été donné au cours d'une visite effectuée dans la ville. Le Premier ministre a annoncé que 16 milliards de francs congolais ont déjà été débloqués pour la reconstruction. Les besoins sont nombreux. Certains sinistrés ont tout perdu et plusieurs infrastructures ont également été endommagées. Alors, dans quelles conditions vivent ces sinistrés et de même que les populations revenues? Quelle reconstruction après l'éruption du mont Nyiragongo? C'est notre débat du jour et nous en parlons avec trois invités. Ghislain Mouya, bonsoir. Pas encore connecté, fait-on savoir. Il est militant du mouvement citoyen Lutte pour le changement, la Lucha à Goma. Et également de Goma, Zaché Matina. Monsieur Matina, bonsoir. Je ne sais pas si Monsieur Matina m'entend. Il est attaché au cabinet du gouvernement de la province du Nord Kivu. Et en ligne de Paris avec nous, Léon Salomon. Bonsoir.
Oui, bonsoir madame.
Vous êtes responsable des opérations de MSF pour la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si cette fois Monsieur Matina m'entend. Monsieur Matina, vous êtes là? Allô, Monsieur Matina? Pas encore. Je vais donc démarrer avec vous, Monsieur Salomon. Comment vivent les populations qui sont revenues depuis l'autorisation du gouvernement? Et d'ailleurs, même avant cela, il y a plus de 160 000 déplacés qui avaient pris sur eux de revenir sur Goma, même avant cette autorisation du chef du gouvernement congolais.
Oui, effectivement, merci beaucoup madame pour la question. Effectivement, depuis les débuts des événements, donc je crois juste pour rappel, hein, de la nuit du 22 au 23, et la décision du gouvernement d'évacuer une partie de la ville qui a été prise vers le 28 mai, il y a eu ce premier mouvement de population qui est parti vers l'axe Sake, vers l'axe Rutshuru et même à Bukavu. Mais ce que nous, on a remarqué, juste deux jours après cette décision, il y avait déjà un mouvement de retour vers Goma, mais un mouvement qui était pas assez significatif. Mais juste après la décision prise par le gouvernement, là récemment, pour un retour officiel, hein, s'il faut le dire ainsi, il y avait déjà un grand nombre de la population hein, qui revenait déjà à Goma. Donc ce qui est bien, c'est que la décision a été prise et on espère que ce retour va être organisé dans de bonnes conditions pour permettre à ces déplacés qui sont partis, hein, comme on le sait tous, hein, une décision qui avait été prise la nuit du 28 mai. Donc tout le monde est parti dans la précipitation et la catastrophe. Donc on espère que ce retour pourra être organisé dans de bonnes conditions.
Il y a des bus qui ont été mis à disposition par les autorités pour ramener dans de bonnes conditions ces personnes, ces déplacés?
Oui, il y a des efforts, hein. C'est par le gouvernement et par les autorités provinciales en affectant des bus pour que les déplacés puissent revenir à Goma. Une fois de plus, hein, c'est qu'il y a des personnes qui vont prendre les bus, hein, mais il faut pas oublier qu'il y a eu une grande partie des gens qui sont revenus avant cette décision parce que à cause des difficultés que la plupart des gens ont rencontrées lors de leur déplacement et sur les lieux de déplacement.
Justement, Monsieur Salomou, certains ont décidé de revenir à Goma à cause des conditions de vie difficiles. Vous l'avez évoqué à Sake notamment, la ville voisine où ces personnes étaient parties. Donc, ces déplacés disaient manquer de tout dans les villes d'accueil. Ont donc décidé de revenir à Goma. Mais est-ce qu'aujourd'hui la situation est meilleure? Pour certains de ces déplacés qui ont tout perdu?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs situations. Il y a les personnes qui ont tout perdu, il y a ceux-là qui peuvent retrouver leur maison, même si les maisons sont affectées. Donc la situation est un peu plus différente selon les situations des gens. Alors, ce qui est un peu plus préoccupant, c'est la population des villages et de quartiers nord de Goma qui vu leurs maisons détruites par les laves. Donc ces populations-là, c'est des populations qui ont besoin, premièrement, d'être hébergées, puis après, pour les autres personnes qui retournent à Goma, c'est besoin de l'eau. Il ne faut pas oublier que Goma, c'est une ville endémique choléra. Donc même nous, on a eu des interventions au niveau de Sake, au niveau de Rutshuru et même de Kibumba. Notre grande crainte, effectivement, c'est cette épidémie qui est une épidémie de choléra à Goma ou à Sake. Et là, pour...
Parce que l'accès à l'eau est très, très difficile. On va revenir à vous, M. Salomou, tout à l'heure, évidemment, pour continuer à parler des conditions de vie dans lesquelles vivent ces populations retournées, puisque c'est l'objet de notre débat. Mais je pense qu'on a retrouvé Zaché Matina. Monsieur Matina, bonsoir.
Madame, bonsoir à tous.
Vous êtes
de la radio.
Merci.
Qui nous reçoit ce soir.
Merci beaucoup. Vous êtes attaché donc au cabinet du gouvernement de la province du Nord Kivu. Avant de reparler des conditions d'accueil et de vie de ces populations retournées, je voudrais qu'on dise quelques mots, Monsieur Matina, sur cette rencontre qui a eu lieu au niveau de l'Assemblée nationale. Le ministre de la Recherche et Scientifique, José Panda, était devant les députés ce mercredi. Ces députés qui voulaient l'interpeller sur la défaillance supposée du système de surveillance du volcan. Que peut-on retenir de cette séance de questions-réponses, en quelques mots?
En fait, les députés nationaux ont interpellé les ministres et juste pour savoir de la gestion de l'organe qui surveille le mouvement du volcan, ou de tous les volcans alors, parce qu'il y en a, Niragongo, Nyamulagira et d'autres qui sont déjà éteints. Et puis, cette interpellation, ouais, l'OVG, et cette interpellation, vous savez, l'éruption a brisqué tout le monde dans la ville. Et quand on a demandé à l'OVG, qui est chargé de surveillance des mouvements du volcan, l'OVG a accusé des problèmes financiers. Des problèmes financiers parmi des difficultés qu'il rencontre. Alors, il était important d'interpeller le ministre.
Qu'a dit justement le ministre sur cette interpellation concernant le fait que, d'après ses députés, l'Observatoire volcanique de Goma n'a pas été en mesure d'anticiper cette éruption? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que il a donné des réponses satisfaisantes? Et est-ce que c'est exact qu'il y a eu un manquement à ce niveau-là?
Bon, dire qu'il y a eu un manquement, ça c'est, je ne peux pas le confirmer parce que ça fait longtemps que l'OVG surveillait les mouvements de ces volcans et dès lors il n'y avait pas toujours de problème. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment une catastrophe naturelle qui surpasse au moins les analyses, même les études de l'homme. C'est ça, c'est ce qu'il faut retenir et c'est ce que même le ministre a montré à tous ses députés, carte sur table, Mais il a promis quand même que le gouvernement de la République va appuyer financièrement et même matériellement l'OVG. Et donc, pour dire, l'OVG sera renforcée, non seulement en capacité, mais aussi en finance, pour qu'il soit à même de bien surveiller les mouvements de ces volcans et pour que pareille situation ne nous surprenne pas.
Merci. Rassurez-vous, on vous donnera la parole tout à l'heure, Monsieur Matia, pour parler à nouveau des conditions de vie des déplacés revenus. Ghislain Mouya, en quelques mots, puisqu'on va bientôt observer la pause, bienvenue. Allô, Ghislain Mouya, militant de la Lucha à Goma.
Merci
alors,
beaucoup.
Comment vivent ces populations? Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour leur accueil?
Alors, pour le moment, la seule disposition qui a été communiquée, c'est de donner le transport à déplacer le moyen de transport à tous les endroits où les gens se sont déplacés. On a vu, par exemple, à Sake et à Rutshuru, il y a des véhicules qui ont été rendus disponibles par les gouvernements. Ça, c'est quand même quelque chose qui a été fait. Mais il n'y a pas de mesures d'intégration ou d'adaptation qui ont été données à la population.
Certains disaient avoir reçu des vivres, d'autres affirmaient le contraire et disaient n'avoir rien reçu. Qu'en est-il précisément?
Alors, le vivre, ceux qui ont reçu de vivre, c'était d'abord quand ils étaient dans les sites d'accueil, là où ils ont été à déplacement. Mais du coup, à Mandra, il n'y a pas de vivre que les gens ont reçu. Il y a aucune organisation qui a distribué de vivre à Goma. Et il faut dire que même dans la distribution de vivre, beaucoup de choses se sont passées. Les détournements au niveau même des centres, des sites où on devrait faire des distributions. Et même des responsables de certaines organisations qui pouvaient vouloir donner à des vivres, il y a eu beaucoup de détournements, ce qui a laissé à ce qu'il y ait beaucoup de personnes qui étaient à déplacement et qui n'ont pas reçu de vivres. Et ça a rendu la vie des personnes très compliquée dans les endroits où ils vivaient. Donc beaucoup de personnes passaient des nuits sans manger, ils passaient des nuits à la Belle Étoile, donc sans drap, sans ouverture, ça casse quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment de la misère. Et nous, on a été dans plusieurs sites pour voir ce qui s'est passé. Et on a décrié la façon dont le gouvernement a géré la crise.
Merci.
Même s'il continue à se justifier que c'était de la précipitation, mais on pense qu'il faut anticiper. Et ça, c'est le rôle même du gouvernement.
Merci beaucoup, Ghislain Mouya. On se retrouve dans quelques instants et nous poursuivrons encore notre débat, quelques minutes, sur les conditions de vie des populations de Goma revenues après l'éruption du mont Nyiragongo.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Dans quelles conditions vivent sinistrés et populations rentrées à Goma après l'éruption du mont Nyiragongo? Trois invités pour en parler ce soir. Ghislain Mouya, militant de la Lucha à Goma. Zaché Matina, attaché de presse, attaché au cabinet du gouvernement de la province du Nord Kivu à Goma. Et ici à Paris, Léon Salomou, responsable des opérations MSF pour la RDC. Je m'adresse à vous, monsieur Salomou. Est-ce que vous confirmez les détournements de vivres qui était destiné aux sinistrés, dont a parlé tout à l'heure M. Mouya?
Je ne saurais pas ni confirmer ni infirmer, d'autant plus qu'on n'était pas impliqué. Moi, ce que je peux juste dire à ce niveau, juste deux points pour aller dans le sens des deux intervenants. La réalité, c'est que les événements surpris tout le monde, y compris nous les humanitaires, parce qu'il faut savoir qu'MSF, nous sommes présents au niveau de du Nord Kivu plutôt depuis plus de 30 ans. Même nous, nous avons été surpris par les événements. Je pense que même dans notre réponse, quand la population quand l'évacuation a été décidée, nous étions aussi dans une évacuation de notre propre équipe. Et c'est que le lendemain qu'on a commencé à organiser aussi une réponse, que ce soit à Sake, à Rutshuru, Bukavu et Minova. Donc oui, il y a eu des actions qui ont été menées. Nous, on s'est limité à ce que j'ai dit au départ, à l'approvisionnement en eau, donner pour les soins de santé et Aussi, à Goma, on a fait des distributions des vivres au centre d'hébergement. Parce que
d'accord, ça c'était avant. Maintenant que les populations sont rentrées, vous parliez des problèmes d'eau tout à l'heure et beaucoup, je le disais en début d'émission, sont revenus faute de trouver une bonne situation dans les villes d'accueil. Et une fois de retour chez eux, les conditions ne sont guère meilleures. Quelles sont les principales préoccupations aujourd'hui de ces populations revenues?
Alors, les principales préoccupations, c'est qu'il y a les populations des villages, les gens qui ont perdu toute leur maison, ils ont besoin d'hébergement. Ça, c'est une priorité pour ces populations-là. Et la deuxième priorité que nous avons identifiée aussi au niveau de Goma, c'est l'approvisionnement en eau. Comme je l'ai dit, c'est une ville endémique choléra. Donc, le système d'approvisionnement en eau a été impacté par l'éruption volcanique. Il y a eu des efforts avec des aménagements. Donc, il y a des quartiers qui sont actuellement approvisionnés. Mais l'approvisionnement en eau n'est pas suffisant au niveau de la ville. Donc, il faudrait des efforts.
Il y a la Croix-Rouge qui distribue l'eau potable aux populations. Mais oui. Pour l'instant, il semble que la Société des eaux ne soit pas encore en mesure d'offrir l'eau suffisante aux populations.
Oui, il y a plusieurs organisations, il y a la Croix-Rouge, il y a nous, MSF, on est nombreux en train de faire de la distribution de l'eau au niveau de la ville de Goma, mais c'est pas encore suffisant, c'est pour cela qu'il y a besoin aussi d'une coordination entre tous ces efforts-là plutôt faits par les différentes organisations pour qu'on arrive à avoir cet approvisionnement en eau suffisant pour la population revenue à Goma. Donc il y a l'hébergement, l'eau, et puis après il y a la santé, hein, parce qu'on parle beaucoup de l'eau, il y a aussi la santé, hein, n'oublions pas que les gens sont partis, sont revenus, et que là la plupart des personnes ont perdu
quasiment tout
de leur maison, quasiment tout. Donc quand il y a eu tout ce mouvement-là, il y a eu des pillages aussi au niveau de la ville, ce qui est normal aussi quand il y a un mouvement comme ça.
Merci.
De panique et d'exode. Et tout ça, c'est des choses qu'il faudrait organiser. C'est une bonne chose que le gouvernement puisse prendre la décision de pouvoir faire des soins gratuits. Mais la décision ne suffit pas. Il faut, en plus de cela, qu'il y ait des médicaments, que les gens puissent avoir aussi accès et que les soignants aussi soient aussi motivés pour que cette volonté politique de pouvoir donner des soins gratuits, ça s'est traduit par des faits réels pour que la population...
Merci, M. Saloumou. On va justement s'adresser à l'attaché au cabinet du gouvernement pour savoir quelles sont les réponses proposées, M. Matina, face à cette urgence ou ces urgences. Hein. Monsieur Saloumou parlait des problèmes de logement. Il y en a qui ont perdu leur maison, des problèmes d'accès à l'eau et de santé. Qu'est-ce qui est proposé sur ces trois aspects?
Oui, madame, avant de répondre d'abord à cette question, j'aimerais réagir par rapport au propos de notre ami de la Lucha. Tu as dit qu'à Goma, les sinistrés n'avaient pas réussi l'assistance à Sake et Kosor. Mais moi, je dois. En fait, ça m'étonne un peu. Apparemment, notre ami n'était pas informé parce que moi, j'avais fait une descente à Sake lors du lancement. De la remise des différentes assistances réussies par-ci, par-là, parce que même aujourd'hui, il y a le Kenya, le président Uhuru Kenyatta qui a donné aussi son assistance.
Je crois que c'est 11 tonnes de vivres qui a été envoyé par le président Uhuru Kenyatta.
C'est 22
tonnes.
Madame. Il y a
aussi la fondation Denise Nyakeru, l'épouse du président, qui annonce avoir distribué des dons.
Exactement, madame. Il y a deux cargos avec à ce bord de 11 tonnes qui est arrivé hier. Et aujourd'hui, nous venons de recevoir ou réceptionner aussi deux cargos qui transportaient 11 tonnes, qui fait un total déjà de 22 tonnes en provenance du Tanzanie. Donc,
Monsieur Matina, oui, peut-être ce sont des dons qui sont arrivés peut-être seulement hier ou aujourd'hui, mais nous avons reçu des témoignages de certains déplacés revenus qui disent n'avoir rien reçu, ni riz, même pas de haricots, ou encore de quoi au moins se loger,
madame,
ou des tentes.
Avant l'arrivée de ces dons, de l'extérieur, il y a les gouvernements congolais qui avaient d'ailleurs dépêché une équipe de ministres ici localement, ici à Goma, une équipe composée au moins de 8 ministres nationaux qui étaient venus avec la première assistance. Et cette assistance a été remise entre les mains du gouverneur militaire. À son tour, le gouverneur avait accompagné cette assistance jusqu'à Sake, qui avait un site qui hébergeait au moins le plus grand nombre de ces déplacés, parce que on avait c'est ça qui était choisi comme le milieu qui pouvait premièrement d'abord accueillir les sinistrés et les déplacés qu'on avait évacués de leur zone, les zones rouges du volcan. Et c'est le gouverneur lui-même qui avait procédé à la remise de cette assistance, à part ça qu'il y a Kibumba qui avait accueilli.
Excusez-moi, monsieur Matina, là nous parlons ce soir, s'il vous plaît. Je pense qu'il vaut mieux qu'on ne revienne pas sur ce qui s'est passé ou non à Sake, puisque là, aujourd'hui, les populations sont rentrées et ont été autorisées à rentrer. Le débat ce soir, c'est comment vivent ces populations. Sur les trois points que nous avons relevés, la question de l'hébergement, puisqu'il y a beaucoup de déplacés qui n'ont plus de maison, la question de l'accès à l'eau, quelles sont les réponses précisément apportées par le gouvernement ?
Si vous vous souviendrez, il y a le chef du gouvernement qui vient de Goma il n'y a pas longtemps,
il était à Goma lundi, le Premier ministre.
Il a promis d'abord de délocaliser cette population touchée par la lave, parce que cette population habitait une zone rouge et les parcelles dans cette zone ont été toutes couvertes par la lave.
Où sont logées ces populations?
Cette population est logée au niveau on est au niveau de Nyiragongo, territoire de Nyiragongo, bien sûr. Il y a déjà un site bien préparé pour accueillir cette population en attendant qu'on donne, en tout cas, des parcelles à cette population. L'État congolais s'est déjà engagé. Il va construire des maisons pour ces sinistrés et il va se charger aussi de l'installation de ces sinistrés.
C'est-à-dire toutes ces personnes sinistrées qui ont perdu leur maison auront droit à une maison gratuitement.
Exactement, c'est le chef du gouvernement qui l'a promis lors de sa conférence de presse ici à Goma même.
Et le problème d'accès à l'eau, puisque ce sont des priorités.
Le problème d'accès à l'eau, c'est un problème en tout cas qui date de longtemps à vie de Goma. Tout Goma n'est pas desservi en eau potable, mais il y a eu la régie des eaux, les raisons de distribution de la régie des eaux qui a été impactée par cette catastrophe naturelle, mais il a été vite réparé par le gouvernement congolais avec l'appui de ses partenaires de Virunga, SAR, MSF, Croix-Rouge, pour ne citer que ces quelques partenaires. Donc, les quelques quartiers concernés par ces réseaux, il y a déjà de l'eau disponible, sauf les quartiers qui n'avaient pas en tout cas de l'eau et les quartiers qui étaient concernés par le réseau de distribution de Mercicor, parce qu'il y a les réservoirs de 5000 mètres cubes situés à Kiissi, dans le Nyiragongo, qui a été impacté aussi par la lave. Je crois que le gouvernement congolais y travaille déjà et dans les tout prochains jours, il y aura de l'eau disponible dans les robinets.
Monsieur Mouya, est-ce que vous avez le sentiment que les personnes sinistrées, de même que les populations qui sont revenues à Goma, ont un grand espoir quant aux solutions qui vont pouvoir être proposées par le gouvernement? Est-ce que ces populations ont confiance au gouvernement pour répondre à leurs préoccupations?
Alors, je pense que la population de Goma est fatiguée par les gouvernements.
Allô?
Et aussi, allô?
Oui, la liaison n'est pas très bonne, mais allez-y, on va essayer de patienter. Allez-y, M. Mouya.
Alors, donc, je dis que la population de Goma est fatiguée par des promesses qui ont toujours été données par les autorités congolaise. On a vu même les degrés d'incompétence qui a été dans la gestion de la crise due à cette catastrophe. Par exemple, il faudrait été donné les sopas nécessairement à respecter. Monsieur le porte-parole municipal au nom du gouvernement provincial, il vient de dire par exemple qu'on a amené des vivres à Sake. Moi personnellement, j'étais à Sake lorsque le gouvernement.
S'il vous plaît, laissons Sake. Moi, ce qui nous intéresse ce soir, c'est le quotidien, hein, ce que vivent les populations, dans quelles conditions actuelles. Parlons s'il vous plaît de ce qui se passe maintenant. Est-ce que ces populations ont confiance? Est-ce qu'elles sont optimistes face à la masse des besoins qui ont été exprimés ici? Est-ce qu'elles sont optimistes quant aux réponses du gouvernement?
Oui, en fait, c'est que la population vit actuellement de part surtout des décisions que le gouvernement prend. Parce que nous savons que la population du Goma est une population résiliente. On l'a même vu pendant les moments de crise. Il y a beaucoup de jeunes à Goma, par exemple des jeunes de la Lucha, des jeunes de Goma Actif, et beaucoup de mouvements de jeunes qui se sont impliqués volontairement pour apporter l'appui auprès des sinistrés. Et ces jeunes ont de l'espoir. Ils sont résilients, ils sont même pour les jeunes. Par exemple, nous, au niveau de la Lucha, avec des jeunes de Goma Actif, on a une disponibilité pour amener quelques compatriotes de retour jusqu'à Goma. Parce que
je suis désolé, monsieur Moulo, on va devoir vous interrompre. On va marquer une pause et on espère vous entendre mieux dans quelques instants lorsque nous conclurons cette émission.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Nous parlons ce soir des conditions de vie des populations de Goma qui sont revenues après l'irruption du mont Nyiragongo. C'était le 22 mai dernier avec Léon Chaloumou, responsable des opérations de MSF pour la RDC, Zaché Matina, attaché au cabinet du gouvernement de la province du Nord Kivu à Goma, et également à Goma, Ghislain Mouya de la Lucha. Ghislain Mouya, nous pensons que la ligne est meilleure maintenant. En quelques mots, si vous aviez à qualifier en un mot les conditions de vie des déplacés retournés à Goma, que diriez-vous?
Je pense que les conditions elles sont mauvaises pour le moment parce que, comme vous le savez, les gens viennent de rentrer. Certaines personnes sont en train de rentrer des gens chez eux. Ils ont perdu beaucoup de choses. Ils ont perdu ce qu'ils ont perdu. On ne parle pas seulement de ce qu'ils ont perdu des maisons, mais il y a aussi ceux-là qui ont été pillés, ceux-là qui ont connu beaucoup de dépenses là où ils sont partis. Donc, du coup, ils sont paupérisés pendant ces deux semaines pratiquement de la crise. Et ces gens, ils n'ont pas à manger. Ces gens, ils ne savent pas comment se réadapter économiquement. Et donc, il faudrait que le gouvernement prenne aussi des mesures à ce niveau. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore écouté même une mesure de relance économique qui a été prévue.
Quand vous parlez de mesures, qu'est-ce que vous attendez, M. Mouyoua?
Non, il faut par exemple que le gouvernement prenne des mesures du genre doter de familles, de vivre, même quand elles sont déjà à Goma, ou peut-être de moyens financiers. Et nous savons que le gouvernement n'est pas incapable de le faire. Il y a beaucoup de partenaires qui sont mobilisés pour cette crise. On a vu beaucoup de gens qui ont annoncé venir en aide à la population de Goma. Mais la réalité, elle est tout autre. On pense d'ailleurs qu'il y a un détournement de toutes ces aides qui sont en train d'être données. On voit par exemple à Rutshuru où nous avons dénoncé les détournements des vivres des déplacés et on a arrêté l'administrateur du territoire et aujourd'hui, il est à la prison centrale de Goma. Donc personne ne doit pas nier le fait qu'il y a eu des détournements parce que déjà, ça c'est et cas qui explique le fait qu'il y a eu des tournées. Je pense que les autorités doivent être conscientes du fait que même s'il y a des aides qui sont envoyées, il n'est pas nécessairement vrai que ces aides atteignent le bénéficiaire. Et donc, Merci. Tout ce que nous demandons pour le moment, c'est se rassurer qu'on essaie d'intégrer la population de Goma de façon économique, mais également continuer à communiquer sur la situation du volcan. Parce qu'hier, par exemple, il y a eu un tremblement de 3,3 magnétites. Ça a encore une fois bouleversé les esprits des gens. Les gens se sont dit, mais est-ce que le gouvernement nous a demandé de retourner à
l'hôpital? Oui, parce que le Premier ministre avait assuré que tout est de nouveau calme. C'est ce qu'il a dit lundi.
Oui, Oui, c'est exactement ce qui a été dit, mais nous avons été surpris de voir qu'il y a encore des tremblements. Et donc, tout ceci, ce plat-là, il faut qu'il y ait de la communication.
Merci.
Mais il ne faut pas que le gouvernement oublie la contribution locale qui a été donnée par des jeunes, par des organisations locales qui se sont données sans moyens, en tout cas, de façon bénévole pour aider. Nous, la lutte, on a fait deux semaines en train de donner la bouillie à des sites attaqués. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu ça. Parce que simplement, nous sommes animés par cet esprit de travail ensemble.
Merci, M. Mouloua. S'il vous plaît, laissez aussi que les autres puissent s'exprimer. On sait que vous avez beaucoup à dire, mais on est en train de conclure le débat. En une minute, M. Matina, le Premier ministre a annoncé qu'il y a 16 milliards de francs CFA qui ont déjà été débloqués pour la reconstruction. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement dispose d'un plan de reconstruction clair, sachant qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été endommagées?
En fait, il y a déjà un plan de contingence. Il y a un plan de contingence qui est déjà sur place. Et il y a un service chargé de la protection des civils qui est déjà sur terrain pour identifier les vrais déplacés et les faux déplacés. Parce qu'il faut les dire. Quand les gens ont écouté qu'il y a des vivres en faveur des déplacés, les gens qui n'étaient pas même concernés par l'évacuation, se sont mis en tout cas en route pour aller aussi recevoir ces vivres.
Donc vous confirmez ce que M. Mouloua disait, il y a eu quand même un peu de détournement des vivres.
Bon, en fait, dans toute distribution en Afrique, il ne manque jamais de détournement. Et je ne peux pas en tout cas à l'heure actuelle ou à ce stade dire qu'il n'y avait pas de détournement. Et d'ailleurs, lui-même a dit il y a quelqu'un qui est déjà en prison parce que c'est un présumé détourneur de ses vivres. Il y a des enquêtes qui se poursuivent. Et d'autres, bien sûr, s'ils trompent dans ces salles, draps seront arrêtés.
Merci. Et sur le plan encore de reconstruction, vous dites qu'il y a un plan de contingence. La question était davantage relative aux infrastructures qui ont été affectées et qui ont été détruites. Est-ce que le gouvernement a budgétisé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un budget qu'il faut pour reconstruire tout ce qui a été endommagé?
En fait, à l'heure actuelle, je ne saurais pas vous dire qu'il y a un budget, mais moi, je vais m'atteler sur ces cas.
Ou tout au moins une estimation.
Les chefs du gouvernement qui a promis, au moins, donc au nom du gouvernement, que toutes les maisons détruites par la lave seront construites, ou toutes les victimes...
Oui, mais là, vous parlez des maisons, monsieur Matina. Moi, je parle des infrastructures. On a déjà évoqué le cas des maisons. On a compris ce que vous avez expliqué. Mais je parle des infrastructures publiques, des hôpitaux, des écoles.
Des infrastructures, madame. Il y a eu la route qui a été coupée par la lave. Et il y a une intervention rapide qui a été dépêchée sur place pour... en tout cas décanter ou débloquer les trafics. Il y a eu des écoles qui ont été touchées. En tout cas, toutes ces infrastructures sont en voie d'être identifiées afin que les gouvernements puissent intervenir.
Merci.
Mais à part la route et quelques écoles, je ne sais pas d'autres infrastructures, mais aussi à part les gros réservoirs là construits par Mercicorps.
Merci beaucoup. En une minute, M. Salomo, pour conclure, quelle est votre attente? Quelle est l'urgence aujourd'hui de ces populations sinistrées? La première.
Ouais, pour nous, l'urgence, effectivement, je vais répéter la même chose, c'est l'approvisionnement en eau pour éviter une autre crise, hein, une crise sanitaire dans cette zone qu'on connaît tous, hein, avec ce risque d'épidémie de choléra.
Donc même bien avant de construire les maisons, il faut que l'eau potable soit accessible.
Oui, ouais. Ouais, je pense que ça c'est important. Ce qu'il faudrait aussi... population qui a été meurtrie hein, de Goma, c'est cette solidarité qui a été quand même assez importante. Hein. La plupart des déplacés ont été aussi accueillis dans des familles d'accueil. C'est pour cela qu'il y a cette solidarité, mais il faudrait qu'on fasse un effort pour éviter une autre crise. Hein, et nous, en tant qu'organisation humanitaire, avec les autres organisations, on continuera notre effort d'assistance à cette population de Goma et la population du Nord Kivu en général.
Merci beaucoup, Léon Salomou, responsable des opérations de Médecins Sans Frontières pour la RDC. Vous étiez en ligne de Paris, ici en France. Merci à Ghislain Mouiwa, militant du mouvement citoyen Lutte pour le Changement Lucha à Goma, et à Zaché Matina, attaché au cabinet du gouvernement de la province du Nord Kivu à Goma. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat sur les conditions de vie des déplacés de Goma, retournés dans la ville après le volcan, après l'éruption du volcan Nyiragongo, il y a un peu plus de 2 semaines. Merci à vous de nous avoir suivis. Rediffusion de votre émission ce soir à 23h, heure de Paris, et bientôt disponible aussi en podcast sur notre site internet africaradio.com. Bonsoir.